nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Ensuite, il y a eu le repas de noces. Là, elle n'a pas faim. Elle dévore des yeux son Charles-Henri. Lui, en face de lui, une cantatrice qu'il a connue et l'a voulu inviter. C'est une grande femme brune avec des seins très en forme. Elle doit avoir dans les 25 ans, habillée d'une robe rouge. Jeanne la trouve vulgaire et plaint son Charles-Henri qu'il est obligé de lui faire la conversation. Après le repas, qui a paru interminable, ils sont allés se retirer dans la chambre pour se reposer et se changer pour le bal. Et s'est allongé dans sa chambre. Il n'a pas pu se reposer ni dormir. Elle pense à cette nuit, à la première nuit. La mère lui a prévenu qu'elle allait ce qui allait se passer. T'inquiète. Elle est vierge et fière de donner sa virginité à l'homme qu'elle aime. bal a lieu. Un grand bal avec de nombreux invités. Un orchestre, des fleurs de partout, des buffets, des serveurs qui vont et viennent. C'est le mariage le plus important de l'année pour Lyon et même le Rhône. Tout le monde a voulu y être. Jeanne a mis une robe blanche avec des fleurs brodées à fil d'or. Elle est très belle. Elle voit toutes ces lumières, cette musique, les gens qui l'entourent pour la féliciter. Elle est très heureuse. Les heures passent. Elle est obligée de danser avec les uns les autres, pas avec son mari. Lui fait la même chose. Elle le voit de loin. Il est souvent avec cette femme, cette cantatrice, cette intense. Elle le plaint. Comme il fait chaud dans le salon, elle décide d'aller dans la salle de bain pour se rafraîchir un peu. Elle monte au premier. Les quatre salles de bain du premier ont été ouvertes aux invités. Elle entre dans la salle de bain où elle a déposé des eaux de cologne, des gants, des serviettes, du coton. Elle s'approche du sort de lavabo, ouvre le robinet, se mouille les mains pour se passer sur le visage. Puis, avec une serviette, elle s'éponge. Juste où elle va quitter la salle de bain, elle trouve à terre une lettre. Sans enveloppe, elle la prend avec, sans l'intention de la lire. Mais elle reconnaît l'écriture de son mari. Elle la lit. Son mari écrit à sa chère Hortense, sa grosse toutoune. Il lui dit son amour, que ce mariage ne change rien et que sa mère, que même pour le lui prouver, il s'échappera du bal quelque temps pour faire des câlineries dans une des chambres du haut, qu'elle n'a rien à craindre, que sa femme n'est qu'une petite oie blanche sans importance. Il se marie, c'est pour la dot, pour régler ses dettes. Et continue en lui disant à tout de suite. Jeanne a lu la lettre, le corps battant, les joues en feu. Et sans sa gorge serrée, tout s'effondre. La lettre, elle la jette. Puis réfléchit, la prend, la remet dans sa poche. Elle retourne. Elle a la tête qui tourne. Tout ça ressemble à une farce, à une horrible farce. Oui, à une horrible farce. Elle voit son mari, et oui, c'est son mari, danser avec cette femme. Elle voit tout tourner. A envie de pleurer. Elle ne veut pas réfléchir pour le moment. Elle va se plaquer contre un mur et regarder les gens danser, parler, rire. C'est un mariage que l'on fête. C'est sa fête. C'est la fin de son amour. Un peu plus loin, à l'écart, elle voit qu'il lui aussi est plaqué contre un mur et semble triste à en mourir. Albert, pauvre Albert. Elle repense à sa lettre. Une belle lettre, une vraie lettre d'amour, pas comme l'autre. Lui au moins, il aime et souffre. Elle était insouciante avec lui. Elle ne l'a pas pris au sérieux. Elle se souvient de ses phrases écrites. Cela la touche. Elle se dit, et dire que je vais me donner ma virginité à ce peur. Ce n'est pas possible. Je ne l'aime plus. C'est Albert que j'aime maintenant. On va vers son frère, un essuie, serrant de sourire. Elle prend la main et lui dit, viens. Il la suit, sans rien dire. Elle le fait monter à sa chambre. On entend, d'une façon confuse, le bal. Une fois que la porte s'est refermée derrière eux, elle lui dit, j'étais insouciante envers toi. mais ta lettre m'a ouvert les yeux. Je me marie, mais c'est toi que j'aime. La père est surpris et tremblant, et continue, lui dit, ça vaut très peu de temps, je vais te donner un cadeau. Pas grand chose, mais c'est ce que j'ai vraiment à moi. Et tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui, je t'aime. Alors, elle quitte sa robe de mariée qui glisse à terre, s'allonge sur le lit, mais tremblant, tout excité, s'approche et s'allonge près d'elle. Elle pose sa tête sur sa poitrine, lui caresse ses cheveux et lui dit, toi tu m'aimes, je le sais, moi aussi je t'aime. Les autres ne comptent plus. Embrasse-moi, caresse-moi. Il est intimidé, il l'embrasse sur les joues. Puis, avec plus de fougue sur les lèvres, il s'allonge sur elle, la touche, les seins, les jambes. Ils sont pris dans un tourbillon de gestes, de baisers. Elle a perdu sa virginité, le sourire aux lèvres. Parce qu'il l'a fait avec l'être qu'elle aimait le plus, il a nettoyé son sang avec son mouchoir, se sont enlacés un moment, unis, heureux, elle lui dit, il me faut partir maintenant. Elle lui dit, pourquoi? Restons ensemble, parce que nous nous aimons. Elle lui dit, je te jure que c'est toi que j'aime le plus au monde. Tu as été le premier et aucun homme ne me touchera, je te le jure. Alors pourquoi partir? Pourquoi ton mari? Mon mari, je ne l'aime plus. Je vais partir avec lui, parce que je ne veux pas faire autrement, à cause de ma famille. Mais c'est toi. C'est toi que j'aime. Ma famille est responsable de ce qui se passe. Je veux partir, il le faut. Toutes mes pensées sont pour toi. Toutes mes pensées sont pour toi. Toutes. Elle l'embrasse sur les lèvres et lui dit, nous devons nous lever. Il lui dit, et rejoindre les autres. Elle lui dit, après ce qui s'est passé, serait impossible de vivre. Elle lui dit, tu verras pour nous. Tu vivras pour nous. Allons debout. Il se fait tard. Ne crains pas les ennuis. Ils se lèvent tous deux. Demi-heure plus tard, sont retrouvés le bal. Elle dit à son frère, je veux danser avec toi jusqu'à ce qu'on m'appelle. Et ils ont dansé. Il lui dit en dansant, j'aimerais toujours être près de toi. Elle lui dit, malheureusement c'est impossible. Elle voit son mari s'approcher d'elle. Elle dit à Albert, ne t'en fais pas. Je t'ai prouvé que je t'aimais. Le mari lui dit, il est temps de partir. Embrasse ton frère et nous partons. Albert se laisse embrasser et la voit s'éloigner avec son mari. Il court à la fenêtre. Les voir rentrer dans le fiacre, le fiacre partir. Il ne sait plus où il est. Doit-il être heureux? Doit-il être heureux? Que va-t-il faire sans elle? Je serai incapable de vivre sans elle. Jeanne est emmenée par son mari en Italie. Dans la calèche, elle se recroqueville et ne veut aucun contact avec son mari qu'elle déteste. Après une heure de fiacre, ils se sont arrêtés dans une auberge hôtel. Avant de prendre le train, ils vont dormir et mettre des affaires de voyage. Une fois que la porte de la chambre s'est refermée sur eux, elle lui dit « Je suis épuisée. Je vais dormir un peu. C'est normal, mon ami. Après une journée pareille, je vous laisse vous reposer. » Et il sort de la chambre pour aller dans la sienne. Jeanne est calme, très calme. Elle enlève sa robe de bal, va à la table de toilette se laver le visage, les mains, et se donner un bon coup de peigne. Puis elle va s'allonger. Une heure après, calmement, elle se lève, s'habille d'une robe d'été rouge, rose, et réfléchit jusqu'au lendemain matin, allongée sur son lit. Au lever du jour, entrez. C'est la bonne. Pour le petit déjeuner. Vous êtes déjà prête, madame? Oui, et mon mari se prépare dans sa chambre. Elle prend calmement son petit déjeuner. Une heure plus tard, ils sont dans un compartiment de première classe. Elle a mis un manteau de voyage beige par-dessus sa robe. Son mari lit le journal. Le matin, il est peu causant et tout juste il lui a dit bonjour. Elle ne s'en est même pas aperçue. Elle semble regarder calmement le voyage. Son visage est d'une fraîcheur de petite fille. Elle se lève et dit à son mari « Je reviens. » Sort du compartiment. Dans le couloir, elle touche la lettre de son mari. Elle l'a mise dans une enveloppe avec l'adresse de ses parents. Elle voit un contrôleur dans le couloir et lui dit « Pouvez-vous me rendre un service? Me porter cette lettre, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, madame. » Elle le lui donne avec deux pièces. « Merci, monsieur. » Elle s'éloigne. Le contrôleur aussi va en sens inverse. Elle se met à une fenêtre, regarde le paysage défiler, des champs, des arbres. Elle en a le vertige. Tend la main et touche la poignée de la porte extérieure. Elle donne un coup sec de toutes ses forces pour essayer d'ouvrir. Elle s'ouvre. Elle saute. Sa tête s'est cognée contre les rails. Le choc a été rapide. Elle n'a pas dû souffrir. La famille apprend avec stupeur et épouvante le drame. Ils sont tous effondrés. Elle perd sa tête, il ne rit plus, il ne vit plus. Jeanne morte. Elle lui a dit qu'elle l'aimait et s'est donnée à lui, puis morte. Officiellement, on a dit à la famille que c'était un horrible accident, mais Albert sait que c'est un suicide. Une semaine après l'annonce du drame, la famille reçoit la lettre. C'est Jules qui la lit dans son bureau. Et là, il comprend tout. Il court vers sa femme qui est dans sa chambre et lui dit « Notre fille s'est suicidée à cause de la conduite de son mari. Notre fils s'est suicidé à cause de la conduite de son mari. Connais-tu là, mon ami ? Lisez. Il lui prend la lettre, elle la lit. La mère est effondrée. Il dit : Faut venger notre fille. Je vais aller lui dire deux mots à ce fumier. Elle lui dit : Tu vas pas te battre avec lui ? Tu ne crois pas que la police, la justice ? Non, il a tué ma fille. Il doit payer. En ce moment, il est chez lui à Lyon, sans doute avec sa maîtresse. Elle lui dit : Je t'en prie, nous avons assez de malheur comme ça. Il lui prend la lettre et va à la chambre en courant et sort de la maison, prend un fiacre. Jean-Larré habite en banlieue lyonnaise, dans une petite maison moderne avec jardin. Lorsque le fiacre mène Jules devant la maison, il voit avec stupeur que la maison est en flammes et qu'il y a les pompiers. Jules demande à un pompier : Que s'est-il passé ? Les voisins ont vu une personne casser un carreau, entrer dans la maison, puis le ressortir un quart d'heure plus tard. La maison a pris feu tout de suite. On l'a retrouvé attaché sur son lit de propriétaire. Il est mort calciné. Il n'a rien pu faire. Le feu était mis sur le lit. Comment le savez-vous ? Par le bidon d'huile renversé sur le lit. Quelle horreur ! Jules s'en retourne, rentre chez lui, il va raconter à sa femme ce que lui a dit le pompier. Tu vois, Dieu nous a fait justice sans que nous ayons à nous en occuper. Je lui dis, cette lettre je la garde. Et il sort de la chambre. Charles-Henri et mis le feu à la maison. Il est parti en courant se cacher dans les bois. Il ne regrette rien. Il a ce qu'il mérite, ce salaud. Et si sa salope avait été avec lui, ça aurait été encore mieux. Il est entré dans la maison en brisant la vitre d'une fenêtre du rez-de-chaussée qui n'avait pas de volet. Il est tombé dans la cuisine. Il voulait lui faire la peau. Cherche un couteau. Tombe sur une bouteille d'huile et des allumettes. Voilà ma vengeance. Il ramasse une corde et monte à l'étage. C'est toujours à l'étage que les maîtres ont leur chambre. Ouvre toutes les portes. Enfin, il est là, dans son lit. Qui dort, ce cochon ? Vite, Albert se penche sur lui, ce qui le réveille. Il le plaque de son corps et d'une main, il l'attache au rebord en bois du lit. L'homme crie, essaie de se défendre. Il a peur aussi, car il ne voit pas son agresseur. Au secours, au secours ! Tu peux toujours crier, fumier. Personne ne peut t'entendre. Et une fois qu'il est bien ligoté avec la corde, c'est fou ce que la colère peut donner des forces. En temps normal, il n'aurait jamais pu paralyser Charles-Henri. Il renverse l'huile sur Charles-Henri qui brûle, qui hurle de terreur et allume une allumette qui jette sur lui. Le corps s'enflamme d'un coup et le lit. Vite, Albert, cours sortir de la maison qui va s'enflammer. Très vite. Il se cogne, sort de la maison juste au moment où le feu prend les escaliers de bois. Cours, quitte le jardin et va se cacher dans les bois. Essoufflé, il s'arrête un moment, voir la maison en flammes. Tu es vengé, Jean. Tu es vengé. Puis... Il est triste et pleure jaune. Ce qu'il a fait, il n'y pense plus. Il fait très nuit, il avance au hasard dans la forêt. Se sent vide, vide. Et se demande ce qu'il va faire. Je suis seul, sans avenir. Jaune, pourquoi m'as-tu laissé seul? Il a envie de mourir. À quoi bon vivre? Il pleure, tremble, a un peu froid. Je suis seul, tout seul. Marche en titubant la tête vide. Pensez à quoi? Descends en fourré et tombe par hasard sur un chemin de gravier. En le suivant, il tombe sur des tiges de ferraille tenues à terre. Il fait trop noir pour voir mais comprend que ce sont des rails. Alors il se dit, le destin m'a mené ici. C'est là qu'il doit s'accomplir. Il marche sur les rails. Il marche. Comme ça, en se tenant l'équilibre au-dessus. Il fait très noir, ne voit rien. Mais sent, sous les sommeils, ses chaussures. Les rails. Marche comme ça, peut-être pendant une heure, il ne sait pas. Fait de plus en plus vibrer les rails. Il continue à marcher. Il voit au loin deux grosses lunes blanches. Et ce bruit et les vibrations qui sont de plus en plus fortes. Il pense une seconde à se retirer. Mais il continue. Les rails vibrent de plus en plus fort sous ses chaussures. Le bruit augmente et devient de plus en plus fort, assourdissant. Les lumières se rapprochent de plus en plus, deviennent énormes avec le bruit, les vibrations. Albert ne voit plus s'il avance. Les lumières avancent, se rapprochent. Le bruit devient sourd. La lumière l'éblouit. Il a été renversé, le visage a été braillé, défiguré. Une de ses mains relevées, en dehors des rails, a des doigts qui bougent un peu, puis plus rien. Le silence. Comme il n'avait pas de papier, on n'a jamais su qui était ce jeune homme. La famille Beaumandin pense qu'Albert est parti à l'aventure et qu'il reviendra. Dans la famille, on a pris l'habitude des fuites de jeunesse. Le temps passe. Pierre se sent mal dans sa peau, avec ses désirs pervers, il n'arrive pas à les accepter, parce que pour extérioriser ses désirs, Il doit aller dans des rues, des lieux où se trouve ce genre de personnes qui ont le même goût que lui. Mais malheureusement, ces lieux et les personnes qui y voient le dégoûtent et se dégoûtent. Le père ne va plus le voir. Il a compris que son fils le rejetait. Il était dégoûté de lui. Mais Pierre, malgré lui, l'attend toujours, à la même heure, dans sa chambre. Il ne sait pas pourquoi, peut-être que malgré lui, les caresses de son père lui manquent. Pierre va une fois par semaine passer la soirée chez Jean. Et c'est sa seule vraie distraction. Ils sont devenus amis, mais n'ont pas recommencé leurs choses. Parce que Jean a de l'estime pour Pierre et il ne veut pas lui faire de la peine. Ils parlent, peinture, musique, font la dinette. Jean lui raconte les troubles qu'il a en voyant certains garçons. Pierre lui dit, « Moi, je n'y arrive pas. » Jean lui dit, « C'est parce que tu vas dans des endroits, tu devrais chercher ailleurs. » « Mais où ?» Jean hausse les épaules. « Et moi alors ?» Pierre sourit, lui dit, « Toi, tu es mon ami, je ne veux pas te faire de mal. » « Du mal ? Mais comment tu me ferais du mal ?» Pierre hausse les épaules. « De toute façon, il y a mon père entre nous. Je le sens toujours près de moi. Lorsqu'on me touche, ça me glace. » Jean lui demande, « Il te touche toujours ?»« Non, il ne va plus dans ma chambre, mais je le sens encore. J'ai l'impression que je suis maudit, que je suis perdu, que jamais je ne serai heureux. D'ailleurs, toute ma famille est comme ça. » Jean lui donne un baiser sur la joue. « Maudit ou pas ?» Je t'aime. Pierre n'arrive pas à écrire. Ses pensées sont trop sombres. Alors il ne fait rien. Il dessine sur des feuilles blanches à l'encre de Chine des choses abstraites, sombres, noires. Des dessins géométriques qui deviennent de plus en plus compliqués et ne ressemblent à rien. Des visages qui s'assombrissent de plus en plus. Des maisons, des arbres, tout est sombre. Touffu, cauchemardesque. Il marche beaucoup l'après-midi, va vers les quais de Saône et cherche des visages, des corps. Il sait qu'à certains endroits, pour un peu d'argent, tous ces jeunes gens, au corps amolli, le dos au mur, le regard vague. Il sait que ces gens le regardent passer, mais lui fait celui qui ne les voit pas. Un après-midi, qu'il marche au hasard dans une rue, il s'entend interpeller. Hé hé ! Il se retourne, voit un jeune homme de loin, pense que ce n'est pas pour lui, continue son chemin. Tout à coup, il entend courir derrière lui. Il se retourne et voit un jeune homme de taille moyenne dans les 19 ans, cheveux blonds qui ondulent, visage sympathique, habillé d'un costume noir. Le jeune lui dit, « Bonjour, tu me reconnais pas ?»« Non, tu m'as sucé derrière l'opéra un jour. » Pierre ne voit pas, mais trouve le jeune sympathique. Le jeune lui dit, « Tu me donnes de l'argent ?»« Combien ?» Le jeune hausse ses épaules lui dit, « Viens, on va dans une allée, j'ai l'habitude. » Pierre, sans réfléchir et sans avoir envie, le suit. Il ne sait même pas pourquoi il le suit. Il a la tête vide. Il suit le jeune homme qui le mène dans une allée. Là, au fond de l'allée, se trouve une porte. Il ouvre et fait entrer Pierre. Un petit espace vide. Le jeune se met au fond et dit à Pierre, « Viens, approche. » Pierre ne bouge pas. « Tu me donnes combien ?»« Je ne sais pas. Pas tout parce que je dois faire une course. »« Allez, donne. Je te sucerai. Tu verras, ce sera très bien. » Pierre lui dit, « Non, moi je te suce. Comme tu veux. » Pierre prend son porte-monnaie et l'ouvre. « Tu me donnes combien ?» Le jeune tend la main. Pierre se retire et sort un billet. Donne ! Et d'un coup, le jeune lui arrache le porte-monnaie, le billet et le pousse. Puis brusquement courant. Pierre reprend son équilibre. Voit le jeune qui court. Lui court après. Dans la rue, il crie « Au-voleur, au-voleur, arrêtez-le !» Les gens le laissent passer. Le jeune a pris de l'avance. Pierre n'arrive pas à le rattraper. « Au voleur, arrêtez-le !» Personne ne le fait et on le laisse passer. Pierre court, court, de plus en plus vite. Mais il est épuisé. Au bout d'un moment, le jeune tourne une rue. Lorsque Pierre arrive en courant, il a tourné la rue. La rue est déserte. Il a dû entrer dans une allée se cacher. Mais laquelle? À moins, Pierre sait que la rue donne sur le quai. Il a une allée. Il a dû aller là-bas retrouver ses congénères. Alors il court jusqu'au quai. Arrive vers les quais. Descend. Il descend sur la berge. Personne. Il se trouve au bord de la berge. Un pas assez lourd. Essoufflé. Épuisé. Démoralisé. Voilà. La vie. Des rencontres comme celle-là. Exploité, volé, chantage, pas d'amour. À quoi bon vivre? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis maudit. Je ne ferai jamais comme tout le monde. C'est ma punition. J'aime. L'amour sera toujours interdit. On m'a dépouillé de mes désirs. On me dépouille de mon argent. Que dois-je faire? Je suis à bout. Et regarde où il est et dit: je suis au bord. Le destin m'a mené au bord de ma route. Un pas, deux, et je suis de l'autre côté. Il regarde derrière lui, voit le chemin qui monte jusqu'au-dessus du quai. Regarde droit devant lui, fait un pas, deux pas. Ne perd pas tout à fait pied. Il est obligé de marcher un peu dans l'eau et de glisser. Il a la force, le courage. Le courage. De ne pas respirer. L'autre entre dans ses narines, ses oreilles, les yeux. Il manque de souffle. Aspire, fait entrer de l'eau dans sa bouche. Il a un goût désagréable. Il continue à couler. Puis, sans ses poumons se gonfler, a l'impression d'étouffer. Ses membres deviennent glacés, ils ne répondent plus, ils continuent à couler. C'est le trou noir. Deux jours plus tard, on a retrouvé le corps qui était remonté. Le temps passe, Jules et Marie sont là, se perdent leur enfant. Albert, ils n'ont pas de nouvelles de lui et se disent qu'ils ne le verront plus. Ils sont là, vivent ensemble sans joie. Jules est plus calme, mais il regarde toujours les jeunes gens dans les rues. Il se dit que jamais il ne pourra ou osera en toucher un, être aimé par un de ces belles et faibles. Le temps passe. Jules a 54 ans. Lui et sa femme ont loué pour l'été une petite villa à Deauville, une maison au bord de la mer, posée sur un rocher. Elle est à la fin du 19e, grande maison grise de 2 étages, avec un petit parc sur le devant et un jardin anglais sur l'arrière. Ils ont amené avec eux leur domestique. Jules est devenu un écrivain célèbre, très lu dans le monde entier. Il ne professe plus, mais fait des conférences dans des universités où il est invité. Sa femme est très fière de ce qu'il est devenu et l'accompagne dans tous ses voyages. La renommée de son mari lui fait passer ses faiblesses et sa vie pas très heureuse dans l'intimité. La perte de ses enfants l'a fait s'accrocher à son mari. C'est la seule chose qui lui reste. Ses parents sont morts. Elle s'accroche à lui comme par devoir et parce que sa vie n'a rien d'autre. Donc cet été, ils ont décidé de passer un peu de bon temps et de louer cette maison. Sa journée calmement en promenade ou se repose sur la plage ou dans le jardin. Les jours passent. Une maison qui est presque semblable à l'or à côté de chez eux est habitée par un vieux couple, les Romains. Ils sont tous deux grands, minces, des cheveux blancs mais toujours habillés de blanc. Lorsque Jules et sa femme les rencontrent, ils se font un petit salut amical et se disent un petit bonjour. Un après-midi, avant d'entrer chez lui, après sa promenade, ils voient leurs voisins qui rentrent chez eux aussi. Ils sont accompagnés d'un jeune homme, grand, mince, châtain, le visage un peu osseux, avec de grands yeux, et un côté charmant, habillé de costume blanc. Monsieur Romain dit à Jules, « Je vous présente mon petit-fils, qui vient passer les vacances avec nous. » Jules fait, « Enchanté, monsieur Romain lui dit, il s'appelle Johannes. » Monsieur. Jeune homme, et chacun entre chez eux. Sortant pour faire une petite promenade pendant que Marie prépare le déjeuner, il tombe nez à nez sur Johannes. Jeune homme, monsieur bonjour, mon grand-père m'a dit que vous étiez le célèbre écrivain Jules Beaumandin. Jules rougit et lui dit, oui mais célèbre, j'ai lu tous vos livres, vous savez. Ce que j'aime, c'est ce que vous écrivez, c'est cette ambiance très particulière où les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils sont. Je vous remercie. Jules est gêné, s'apprête à le quitter. Johannes lui demande, vous allez où?
Où je vais? Ben je vais me promener au bord de la mer, ou plutôt sur le chemin qui longe la mer.
Je peux venir avec vous?
Si vous voulez, mais ça vous fait pas peur de vous ennuyer avec un vieux monsieur comme moi?
Ah non, surtout pas un homme comme vous.
Alors, allons-y.
Et il part. Prennent le chemin et marchent l'un à côté de l'autre. Jules est gêné, car le jeune est vraiment très charmant. Il a peur qu'il voie son trouble. Le jeune semble détendu et parle à Johannes que c'était une personne de son âge. Tout en marchant, il lui parle de ses livres. film préféré, c'est celui qui se passe à Venise. Il lui dit, vous semblez plus jeune que je le pensais.
Merci.
Est-ce que vous pensez que nous allons avoir la guerre?
Malheureusement, tout le monde le veut. Surtout ce Clémenceau.
Ben, je partirai peut-être me battre, moi aussi. Je le regarde bien et lui dis,
quelle horreur!
Je le laisse sourire et lui demande, est-ce que ça vous gênerait d'avoir un ami de mon âge?
Non, pas du tout.
Vous ne trouvez pas trop niais?
Non. Non, pas du tout.
Et physiquement, je le regarde bien, lui dit,
vous êtes très bien.
Jeunesse sourit et lui dit, alors nous pourrons devenir amis?
Oui, bien sûr.
Dit Jules gêné, regarde sa montre et dit,
ma femme doit m'attendre, il faut que je rentre.
Et il s'en retourne. Avant de se quitter, le jeune lui demande, demain, nous reverrons à la même heure? Jules gêné. Jeunesse lui dit, vous m'avez dit que cela ne vous gênait pas de m'avoir comme ami.
Je lui dis, bon, alors, à demain.
Et il entre chez lui. De cette rencontre, il fait des efforts pour ne pas y penser. Il a peur que ça se termine comme d'habitude. Il est tellement gêné et sympathique. Il est tellement gentil et sympathique, ce jeune garçon. Le lendemain, il le retrouve devant chez lui. Le jeune lui dit, bonjour.
Bonjour.
Ils s'en vont prendre le même chemin. Le jeune, tout à coup, se pend à son cou pour l'embrasser. Jules n'a pas le temps de se retirer. Il a reçu le baiser. Jeunesse, surpris, lui dit, ne sommes-nous pas amis? Vous n'êtes pas content de me voir? Oui, bien sûr. Et ils se mettent en route.
Jeunesse lui dit, j'ai pensé rêver à vous cette nuit.
Cela vous fait plaisir?
Oui, bien sûr.
Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. D'habitude, les personnes adultes ne font pas attention à moi. Il prend la main de Jules et la fait balancer. Jules lui demande,
qu'est-ce que vous faites?
Le jeune sourit et lui dit, rien. Qu'est-ce que vous pensez des femmes?
Elles sont gentilles et belles.
Moi, j'y trouve idiote.
Parce que tu es jeune?
Non, pas du tout. J'aime pas être à côté d'elles.
Je lui dis, tu es presque un enfant.
Non, pas du tout, tenez. Et, avec la main qu'il tient, Jules la met entre ses jambes. Jules rouge. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.